pour ce message de ce matin. Et pour ça, j'avais à cœur le thème du le caractère de Jésus. Et c'est d'une manière assez spéciale que je l'ai reçu à cœur, parce que, pour être vrai, j'étais un peu à la bourre avec ce message. Et puis, mais ça ne me stressait pas. En fait, j'avais toujours la paix, puis je savais que ça allait venir. Puis vous me direz à la fin si ça allait ou pas. Mais du coup, je rentrais là, aussi au boulot, j'avais pas mal, mercredi, dans la voiture. Puis j'aime bien ce temps de Berne à la maison pour aussi prier, écouter beaucoup de podcasts et puis la louange. Et là, je priais, j'avais la louange au fond et je priais Dieu. Puis j'étais tout le temps, mes pensées, ils étaient tout le temps un peu ailleurs. Et je me disais, mais donne-moi au moins le titre, ce serait quand même bien de savoir de quoi parler. Et puis voilà, ça continuait, puis mes pensées commençaient un peu à aller dans tous les sens. Enfin, voilà. Puis tout d'un coup, j'étais dans la prière, et puis il y a la musique qui s'éteint dans l'auto. Puis il n'y avait pas de raison. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, Saint-Esprit, alors parle-moi. Et puis comme je suis, je me suis dit, ouais, mais attends, c'est pas normal, je vais quand même trouver pourquoi ça s'éteint. Puis je commençais à grailler mon autoradio, puis mon attel, rien à faire. Et tout d'un coup, je me dis, non, stop. Si le Seigneur, il éteint ma musique, je ne vais pas réussir à la remettre. Et c'était vraiment entre Bienne, environ vers Vigier, un peu plus loin que Vigier, dans les tunnels, ça s'éteint. Puis normalement, ça ne s'éteint pas. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, il m'a dit deux mots, deux phrases. Parle de moi et parle de ce que je fais dans ta vie. Et quand c'était fini, j'ai pris le virage et la musique est revenue toute seule. Sorti de ta vanne, je me suis accordé à la maison, je regarde quel est le bug. Sorti de ta vanne, il y a la musique qui est revenue. Voilà, donc ça c'est un miracle, du coup j'avais pas trop le choix. Après je me suis dit, mais c'est parler de Jésus, oui, toute la Bible parle de Jésus, c'est énorme. Et puis j'avais à cœur aussi, puis je me suis dit, mais parle de moi en tant que personne. Quel était mon caractère, comment j'ai vécu vraiment la personne de Jésus. Et puis du coup, c'est ça que je me réjouis de partager avec vous ce matin. Qui il est? Si il était une personne, ou bien il était une personne, comment il était? On va parler de son caractère, de ses émotions aussi. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter différents types de Jésus qu'on peut avoir dans notre vie. On peut avoir Jésus le pompier. Là, j'ai piqué un verset, psaume 50, verset 15. « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. » Ce n'est pas faux. Jésus, il a le rôle parfois de pompier. Un pompier fait quoi? Il vient au secours quand ça brûle. Il vient au secours quand il y a une urgence. Il vient au secours quand plus personne ne sait quoi faire. On appelle les pompiers. Ils viennent, ils éteignent le feu et ils repartent. Ça, c'est leur boulot. Et puis, on dit des fois aussi un peu dans les entreprises, comme ça, ouais, c'était un exercice de pompier. Pour dire tout à l'ADR, tout vite fait, allez, ça devait être, ça n'allait pas sans ça. Et puis, on fait appel à eux quand il n'y a plus d'autres solutions. Les pompiers viennent pas vraiment en retard, mais des fois presque. Et les pompiers, c'est un peu des héros, souvent. S'ils arrivent à éteindre le feu, sauver un gamin de l'appartement qui brûle, etc. C'est des héros, et puis c'est bien comme ça. Puis heureusement qu'ils existent. Et puis on peut avoir un peu cette image de Jésus en tant que pompier. Ensuite, on peut avoir l'image de Jésus en tant que best friend. Et dans Jean 15, 15b, il dit « Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc Jésus, c'est aussi notre ami. Et puis pour toi, c'est qui? C'est un ami aussi? C'est un peu le Jésus, justement, qui est bon à voir avec nous, que c'est cool avec lui, c'est cool de faire la fête. De toute façon, je peux tout faire, parce que j'ai la grâce de Jésus. C'est mon pote, il est là, avec lui, je peux un peu chiller, je peux voir mes amis, je vais au groupe de jeunes, je vais à l'église. Et puis, voilà, ça, il permet d'avoir une plateforme pour se rencontrer. Et puis, voilà. Puis, en plus, c'est cool s'il est là, parce qu'il me fait du bien. Et puis, ça, c'est aussi un peu un mouvement qui est pas mal présent aussi en 2024, un peu le mouvement aussi post-évangélique de j'adapte tout l'évangile en fait à ma sauce. J'adapte tout pour que ça joue pour moi. J'adapte, je prends les versets un peu comme ça, comme j'ai fait là aussi, je les pique un peu, par-ci, par-là, et puis je l'adapte pour moi. Et puis de toute façon, il y a toujours une solution dans la Bible à tout, et puis ça me permet de tout faire. Et ça, c'est un peu le risque. Puis en même temps, c'est pas faux. Jésus, c'est notre ami. Là, dans ce passage, ben, il dit aux disciples, au bout d'un moment, d'abord c'était leur rabbi, leur maître, et au bout d'un moment, il dit, aujourd'hui, maintenant, je suis votre ami. Il est devenu ami, et puis il veut être notre ami. Et c'est très, très bien. Et la question que je me posais aussi, c'est, est-ce que j'utilise des fois cet ami Jésus pour voir les autres, pour voir ben, les autres personnes de l'Église, pour avoir une plateforme comme ça, et puis de pouvoir juste être bien. Et puis, en fait, ouais, grâce à Jésus, ben, y a cette plateforme qui est là. Après aussi, Jésus le Consolateur. Dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Là aussi, ce n'est pas faux, Jésus le Consolateur. Jésus nous aime tellement. Jésus nous prend dans les bras. Jésus nous prend sur ses genoux et nous dit « Je t'aime, tu es mon enfant. » Jésus, il est amour. Jésus, il veut le meilleur pour nous. Et puis, parfois, on peut tomber un peu là-dedans que Jésus, c'est mon consolateur, il me prend dans les bras et tout le reste, c'est égal. Tant que j'ai ça. Jésus, il est ça. Mais Jésus, il est aussi autre chose. Personnellement, ben, j'aime bien cette image. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les moments où on est bien, où on s'aime, prendre les gens dans les bras. Et parfois, même quand je fais mes moments de prière, après, à la fin, ça peut être débile de dire ici comme ça, mais c'est vrai que je fais le geste de prendre Jésus vraiment dans les bras, comme ça. Et puis, parfois, je ressens presque la résistance au bras, un peu de dire, mais j'ai Jésus dans les bras, il m'encourage, il remplit mes batteries pour la journée, puis après, tac, il lâche, et puis c'est bon. Et parfois, je me lève vraiment et je le prends dans les bras, et puis j'espère que personne ne me voit, parce que j'ai l'air d'un débile. Mais ça fait tellement du bien à juste se dire, voilà. C'est aussi déjà arrivé, j'ai entendu un podcast qui dit, de temps en temps, j'ai besoin d'aller sur les genoux de Jésus. Je me dis, ouais, voilà. Mais oui, Jésus, il est là. Il est juste dire, prends-moi sur tes genoux, je suis ton enfant. J'ai besoin de mon Père qui me prend, qui m'enlace. Surtout aussi, des fois, on a besoin du consolateur si on est faible. Faible physiquement, peut-être moi, quand je suis malade, j'ai besoin de Jésus et je dis, voilà, tu es fort, je suis faible. Mais dans la vie, tous les jours, on a besoin de ce consolateur. De dire, mais en fait, sans toi, je ne peux rien faire, même si je me sens fort. Et en plus, c'est dans mes faiblesses que toi, tu es fort. On a besoin de ce papa qui nous prend dans les bras. Après, à Jésus le coach. Matthieu 25, 23a, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Ça, c'est un peu la forme de Jésus qu'on aime bien, si on est un peu apostolique, si on aime bien avancer. Hein. Allez Jésus, c'est quoi le prochain pas? Envoie-moi. Où? Comment? Comment tu ferais? Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas aller? Dis-moi, aide-moi. J'achète cette voiture ou pas? Je vais où? Change de boulot ou pas? Change cette situation? Conseille-moi. Alors oui, le Saint-Esprit, c'est notre coach personnel, des fois aussi sportif, et il forme notre caractère. Il nous dit par où aller. Il nous dit les prochains pas. C'est un life coach, et c'est le life coach par excellence. Mais si on voit Jésus qu'en tant que life coach, ça peut aussi hyper stresser. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a que la pression qu'on doit avancer, qu'on doit faire plus. Et puis, quand je suis en relation avec Jésus, il va toujours me dire ce que je dois encore faire. Peut-être qu'il va me dire ce que j'ai bien fait, comme là. Peut-être qu'il va même dire ce que j'ai moins bien fait. Mais surtout, il va me dire qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Et ça peut être stressant. Ça peut des fois même être un motivateur de plus trop lire la Bible ou plus trop prier, de peur que tout d'un coup le Saint-Esprit me dit des choses qui me sortent de ma zone de confort. Et ça, c'est des choses qui peuvent être stressantes, qui sont justes, hein, de nouveau. Ce n'est pas faux, Jésus, il est ça aussi. Et c'est très important. Mais il n'est pas que ça. Moi, personnellement, c'était un coach aussi. Par exemple, j'avais reçu à cœur d'arrêter Facebook. Et puis du coup, je me suis dit, ouais, ok, après plus du temps, ok, j'arrête. Voilà, puis j'ai arrêté. Puis une autre fois, j'avais à cœur aussi de faire une pause de 20 minutes, de lire. Et puis ça, c'était un peu un dialogue de coach. Il m'a dit, moi, je pense pour toi, c'est bien que tu arrêtes ça. Ça te libère du temps, tes pensées ne sont pas tout le temps là. Et ça, pour moi, c'était un peu l'exemple d'un coach qui me dit quoi faire. Puis il y a bien sûr plein d'autres exemples. Donc Jésus à différentes facettes. Donc là, il y en a quatre. La liste est beaucoup plus longue. Et je t'invite à réfléchir, mais quel est ton Jésus? Quand tu penses à Jésus, tu penses à quoi? À son caractère? Comment il est? Est-ce qu'il est pompier? Il vient éteindre le feu quand ça brûle? Est-ce qu'il est best friend? Trop cool? Yes, on chill ensemble, on fait la fête. De nouveau, rien de tout ça est faux, hein, on se comprend bien. Est-ce que c'est Jésus le consolateur? Je vais que chez lui quand je ne vais pas bien. Je vais que chez lui prendre du réconfort. Je vais que chez lui quand je ne maîtrise plus moi-même, quand j'ai besoin de lui parce que je suis trop faible. Puis là, j'ai besoin de lui. Est-ce que c'est Jésus le coach qui me dit tout le temps qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, qui est très bien, mais qui peut être stressant? Réfléchis. Réfléchis à Jésus. Dans quelle situation tu te trouves, toi? On a aussi tendance, des fois, à lire la Bible, par exemple. On est un petit peu, au fond, Jésus le coach. Je dois faire quoi? On est au fond, Jésus le consolateur. Je vois tout ce qui est amour. Et si on essaye, des fois, de lire la Bible, et tu te laisses inspirer, parce que ça dépend de nos situations. On y reviendra après. Je pense que si on a des fois ces schémas prédéfinis, on limite Jésus. On le met un peu dans une boîte. Puis on l'utilise là où on pense qu'il agit. Puis le reste, on essaie de gérer par nous-mêmes. Et en fait, on a besoin de tout. Et c'est ça qui est méga important. Et pour ça, j'aimerais vous montrer. Voilà. Jésus le pompier. Donc ça, c'est très important. Si je ne vais pas bien, ça m'est arrivé que j'étais au fond du bac, puis j'ai dit, Jésus, maintenant, tu dois agir. Si tu n'agis pas, j'en peux plus, c'est fini. Puis là, Jésus, il arrive justement, il me prend dans les bras, non pas dans les bras, il vient éteindre le feu, il vient régler, il va me dire quoi faire, puis après, il repart. Ce Jésus de premier secours, il a autre chose, il a d'autres urgences. Enfin, on se comprend, mais si je regarde que Jésus là, je me dis, merci beaucoup, tu m'as sorti de là, j'ai plus besoin de toi. Mais en fait, après que j'ai eu le feu, que ça a brûlé chez moi, souvent je ne vais pas bien. Souvent je perds tout, mais le pompier il est reparti. Qui c'est qui est là après? C'est le consolateur. Là j'ai pris une couverture, parce que Jésus dit, viens t'asseoir, on prend la couverture sur nous, et puis on se met gamute, tout chaud, dans un coin, et puis je le prends dans les bras. Raconte-moi, qu'est-ce que tu as vécu avec ton feu qui a brûlé? Pourquoi tu vas tellement mal? Et puis, c'est trop chaud parce que Caleb, il a quoi, 14 mois environ. De temps en temps, il va dans le salon, là où on a la télé, on a un petit panier où on a toutes les couvertures, il va chercher une couverture, puis il vient vers nous. Ça veut dire qu'on doit prendre la couverture, qu'on doit le prendre sur le fauteuil, mettre la couverture par-dessus, puis après se mettre tout contre nous comme ça. Et puis, il a besoin de ce moment de qualité. Il ne parle pas encore, mais il sait que si je vais amener une couverture, j'ai un câlin, j'ai un moment de qualité avec mes parents. Et puis, Jésus, c'est la même chose. Après, quand on était dans le feu, on a besoin d'être consolé, on a besoin de raconter. Et là, il y a Jésus le consolateur. Mais au bout d'un moment, si on n'est que sous la couverture chaude, au bout d'un moment, on commence un peu à bouger. On dit, bon, puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où c'est que tu... Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Puis Jésus dit, ouais, attends, viens. Et puis là, maintenant, je suis ton ami. Viens, on se lève de la couverture, et puis on fête. Et puis on va fêter ensemble. On va fêter que tu es mon ami, et puis on sort, viens, je te prends avec, on va faire la fête, viens me célébrer. Puis là, c'est la louange, là, c'est les choses qu'on vit aussi ce matin. Oh, purée, ça fait mal à la tête. Attends, j'ai un autre mot encore, voilà, c'est moins dur. Et là, il dit, et puis ça, c'est juste, on célèbre ce que Jésus fait dans notre vie, on célèbre parce qu'il m'a sauvé du feu, on célèbre parce qu'il m'a consolé, on célèbre parce que c'est mon ami, et puis il ne me laisse jamais tout seul, et puis avec lui, j'avance. Et au bout d'un moment, on est bien. On est bien. Ah, ça c'est encore moins. Ah, ça c'est encore moins fort. On est bien dans ce truc amitié. Ça c'est un peu moins. Hein. Moi j'aime bien. Tout va bien. Jésus est un peu là. Les autres sont là. Trop cool. On échange un peu. Mais après Jésus, tout d'un coup, il se transforme. Puis pas que Jésus, Fabrice aussi. Il se transforme en life coach. Et puis là, c'est le sport. Tout d'un coup, il dit. C'est cool, ouais, c'est cool d'être ensemble. Mais prochain pas, c'est quoi? Vas-y. Mets tes chaussures de course et vas-y maintenant. Bouge ton, et vas-y. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'on a tendance à stagner dans un de ces trucs. Et là aussi, il ne nous laisse jamais seuls. Il va nous challenger. Inviter, challenger. Et quand il nous challenge, on avance. Et tout d'un coup, c'est possible qu'on tombe. Et que là, on a besoin du pompier. Et puis Jésus va venir en pompier. Et puis après, ça recommence. Enfin, schématique. Mais ayant vraiment, mettons pas Jésus dans une boîte, mais regardons à tout ce que Jésus fait. Ce qui est hyper important, c'est qu'on apprend à connaître Jésus. Comment il est vraiment. Pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin, à quel moment, puis comment Jésus l'est-il. Si on veut apprendre le caractère de Jésus, on a besoin d'apprendre à le connaître. On a besoin de savoir qui il est. Autrement, tu ne sais pas le caractère d'une personne. Tu peux te faire des images, tu peux regarder une image, tu peux dire, cette personne, elle doit être comme ça ou comme ça. Tu peux voir quelqu'un une fois, mais tu ne la connais pas. Et c'est une fois que tu passes du temps avec elle, que tu vas boire des verres, que tu vas au resto, que tu vas au sport, que tu l'invites chez toi, que c'est là qu'il y a une relation qui commence. Et Jésus, c'est la même chose, c'est un ami. Et il veut cette relation avec nous, il cherche que ça. Il cherche cette intimité avec nous. Et là, je t'encourage vraiment à apprendre comme il est, vraiment avec tous ses côtés. Peut-être aussi les côtés qu'on aime un peu moins, mais qui nous sortent de notre zone de confort. Et quelques points que je vous encourage à apprendre à connaître son caractère, sa façon de vivre, sa manière de prier, ses pensées, sa communication, son invitation, son challenge, sa grâce. Et si on fait ça, ben il nous le promet avec son esprit, l'esprit de Jésus en nous, cet esprit, dans la Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc si on apprend à connaître Jésus, il nous fait ces cadeaux-là, grâce à son Saint-Esprit qui est en nous. Mais on doit vouloir l'apprendre à connaître. On doit vouloir ces cadeaux-là. On doit vouloir vivre comme lui. On doit vouloir savoir comment il est réellement. Et pas seulement dans cette boîte que j'aime bien comme il est. Ce qui est important, c'est qu'il faut construire une relation et pas une religion. Une religion, on peut apprendre comme ça. On peut lire, ben quelqu'un nous le dit. Une relation, pas. Une relation, c'est personnel, c'est du cœur à cœur. C'est avec une personne. Et toutes les personnes entre eux n'ont pas la même relation non plus. Je suis content que vous n'avez pas tous la même relation que moi j'ai avec ma femme. On n'a pas les mêmes relations entre amis, famille, collègues. Et c'est normal. Mais si on veut approfondir cette relation, ben, il faut apprendre à connaître. Il faut apprendre à se connaître. On dit aussi souvent la beauté vient de l'intérieur. Donc c'est aussi ça. C'est une fois que tu apprends à connaître la personne. Et pour ça, j'ai aussi un petit témoignage. J'ai fait une formation aussi l'année passée. Et puis on avait un recrutement. Et puis on était plusieurs personnes de tous les coins. Puis on ne se connaissait pas. Et puis en fait, après on attendait un test. Puis il y avait un à côté, un gars un peu plus âgé que moi. Et puis je le trouvais méga space. Je me suis dit, oula, celui-là, ouais, ok. On a pu discuter, et puis il me semblait qu'il était anti-tout un peu. Puis je dis, ouais, ça c'est, non, non, ça c'est pas moi. Puis après, on a commencé la formation, et puis maintenant c'est mon best friend. Parce qu'on a appris à se connaître. Et je le jugeais plus sur son physique ou sa manière, ou les choses qu'on voit, ou qu'il a dit. Mais je l'accueille ben, comme il est vraiment. Et c'est une personne incroyable. Ensemble, on a déjà fait des trucs ensemble et tout. Et puis, c'est juste cool. Mais si je m'étais arrêté à son image, j'aurais dit, pas pour moi. Mais je ne connaissais pas son caractère. Et la même chose avec Jésus. Apprenons à le connaître. Vous avez encore le temps. Mais parce que j'aimerais encore vous raconter, vous expliquer quelque chose, quelques pensées par rapport aux émotions de Jésus. Là, on a un petit peu vu le caractère, mais Jésus, il avait aussi des émotions. Et puis, on a tous des émotions, on a tous des émotions différentes dans des situations différentes. Et puis, Jésus aussi, il les avait. Jésus n'avait pas toujours les mêmes émotions. Mais des fois, là aussi, si on voit Jésus un peu religieux, c'est toujours un peu le même. Hein. Il prie, tout saint, tout pieux. Non. Est-ce que vous avez envie qu'on rentre encore là-dedans? J'essaie de ne pas faire trop long. La joie. Jésus, il a exprimé de la joie. Il avait de la joie dans son cœur. Et il y a plusieurs passages qu'il dit. Là, je prends juste un passage. En fait, il était en route avec ses disciples. Et au bout d'un moment, il en avait 70 ou 72 qu'il a envoyés, deux par deux, pour aller témoigner. Et ben, ils sont allés, il leur a donné des règles de jeu, est-ce que tu dois prendre ou pas prendre, voilà, allez-y. Puis il les a envoyés. Et ensuite, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils étaient hyper contents, en fait. Ils disent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Ça, c'est dans Luc 10, versets 17 à 20. Et après, la suite, c'est Matthieu 23. « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je suis reconnaissant, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Dans le 23, « Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Entendre et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendiez et ne l'ont pas entendu. Donc là, on voit Jésus, il était rempli de joie. Il les a envoyés, peut-être qu'il était même un peu tendu, comment ils vont revenir. Ils sont revenus, ils étaient hyper contents. Il leur a dit, mais c'est grâce à Dieu, ramenez toute la gloire à Dieu. Puis il était hyper joyeux. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être joyeux? Que le royaume de Dieu est accessible à tout le monde? Alors, c'est pour toi le message, Billy, il faut écouter. J'ai un petit peu ressenti cette joie-là de Jésus, ce soulagement. Ah yes, mes gars, ils ont assuré. Je les ai bien formés, ils ont assuré, c'est bon, je suis content. Moi, j'ai un peu ce soulagement quand je rentre de vacances, puis tout s'est bien passé. Quand je me dis, je suis à la maison, et puis là, je peux louer Dieu pour les vacances et tout, parce que tout s'est bien passé. Et puis, je pense qu'il y a une espèce de soulagement comme ça. Ben, si tu as fini les examens, il y a la décompression, peut-être tu chopes une petite grippe, mais surtout, tu es hyper content et puis soulagé. Puis tu remarques le cardiaque, ça commence à descendre, c'est bon, la vie reprend. Et puis, je pense que ça c'est une joie après. C'est une joie que Jésus a ressentie dans ce passage-là aussi. Et puis, la question pour vous, c'est est-ce que sommes-nous fiers de ce que Dieu fait ou sommes-nous fiers de ce qu'on fait par notre propre force? Notre joie dépend de quoi? De ta force, hein, Billy? Ouais, alors tu peux être très joyeux. Donc là aussi, ramenons aussi notre joie à Dieu. Il ne veut pas nous l'enlever, parce que la joie absolue, c'est en lui. Jésus avait aussi de la colère. Et je pense que ces passages sont assez connus parce que la colère, comment tu peux être en colère sans péché? Comment tu peux être fâché sans faire des mauvaises choses ou avoir des mauvaises pensées? Jésus était parfait. On veut croire qu'il pouvait être en colère même sans péché. Et puis là, je vais vous lire le verset. On le connaît aussi, c'est dans le temple. Ouais, je vous lis celui-là. Jean 2, 13 à 18. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des échangeurs et renversa leur table et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière ?» Là, il était furieux, Jésus. Il a fait un fouet, il les a chassés. Ça, c'est, je pense que les disciples, là, ils étaient aussi un peu étonnés. Et puis les Juifs aussi disaient « Mais tu ne peux pas réagir comme ça ». Puis en fait, dans ce contexte-là, ça s'est arrivé deux fois, cet événement. Une fois, puis encore une fois avant Pâques. Là, c'était avant Pâques, puis encore une fois après être rentré à Jérusalem. Deux fois, elle a chassé les vendeurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Mais en fait, pendant la Pâque, il y a beaucoup de personnes qui arrivaient pour louer Dieu dans le temple à Jérusalem. Donc, ils arrivaient un peu de partout et ils ne pouvaient pas prendre leurs animaux pour le sacrifice avec, ou bien c'est tout ça, le voyage était trop long, ou alors c'était des animaux impurs pour le sacrifice. Du coup, les gens locaux, un peu les commerçants, ils se sont dit, cool, ça c'est vraiment un business que je peux faire là, je vends mes animaux beaucoup trop cher. Parce que du coup, ils sont sur place, ils ne doivent pas les prendre avec. Je les vends et puis ils vont les acheter parce qu'ils veulent, ils viennent pour sacrifier. Donc, ils ont fait vraiment ce commerce voltant pour vendre ces bêtes beaucoup trop chères. En plus, des échangeurs de monnaie, parce qu'on ne pouvait que payer la taxe, les impôts de l'église, enfin du temple, avec la monnaie locale. Donc, s'ils venaient de partout, les échangeurs ils profitaient de mettre un taux élevé, d'échanger leur monnaie pour qu'ils puissent payer leur impôt de temple. Donc, en fait, ça prenait beaucoup trop. C'était beaucoup trop grand. Ce n'est pas mal en soi, je pense. mais ça prenait toujours plus de place. Mais en fait, ça prenait autant de place que ça devenait même plus important que d'adorer Dieu. Jésus dit aussi, mais vous, avec votre commerce, vous dérangez ceux qui ont le cœur pur et qui viennent adorer, et qui viennent vraiment pour mon Père, en fait, et pas juste pour le commerce. Et là, ben, sa colère à lui, là, c'était quand même fondée. Il a fait quelque chose de bien. Donc je pense qu'on peut être en colère contre l'injustice. On peut être en colère contre des choses qui ne jouent pas, ou bien le péché, par exemple. Mais si on est en colère parce qu'on a des désirs humains, je ne pensais pas bon. Et là, c'est vraiment difficile aussi de savoir est-ce que c'est une colère sainte ou pas. Pour analyser notre cœur. Mais de ne pas être d'accord avec des choses qui ne jouent pas, je pense que c'est très correct. Et puis Dieu est la justice. Et il nous fait justice. Et là, de nouveau, je me dis aussi, mais avec quel cœur je viens au temple, ou bien à l'église, ou bien ce matin? Pourquoi je viens? Est-ce que je viens pour adorer Dieu? Est-ce que je viens pour voir mes amis? Est-ce que je viens pour peut-être faire un message, puis tout le monde me dit, c'est bien, t'as bien fait. Est-ce que je cherche ça? Je cherche quoi? En venant ici. Même chose si on fait la louange, les enfants, c'est avec quelle attitude de cœur que je le fais? Ou est-ce que je viens même parce que je peux plus vendre un demi-cochon à lui, et puis encore un veau à lui, et puis machin, et puis ah ouais, c'est cool, lui il sera là, il devra encore me payer un truc, il a encore des dettes. Donc ça me remet quand même en question. Un peu ce lieu saint, cette adoration qu'on veut amener à Dieu. Et ça, c'est le deuxième verset de la colère de Jésus. Je ne vais pas aller en détail, ça, sinon ça va trop long. Mais là, en fait, c'est de nouveau, il a chassé les gens du temple. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est la suite. Dans Matthieu 21, 18 à 21, c'est écrit. Je ne vais pas le lire. Mais en fait, Jésus, c'était le lendemain matin, puis il est retourné dans la ville. Et il avait faim. Et il a vu un figuier. Puis il voulait prendre des figues, puis il n'a pas trouvé de figuier. Puis là, il a maudit, et puis il a pourri. Vous avez déjà lu cette histoire? Puis le figuier a pourri. Moi, je pense qu'il est encore un peu en colère. Tu sais, là, hier, ben, je devais chasser ces trucs, puis maintenant, ce figuier ne me donne même pas à manger. Et puis il a pourri. Je me suis dit, mais bon, pourquoi il pouvait rire, ce pauvre arbre, qui n'avait pas de figues? Puis après, ben, justement, Jésus donne aussi l'exemple que ben, les disciples étaient étonnés, puis ils disaient, mais comment tu fais? Et puis ils disaient, mais si vous croyez en moi, vous faites des choses encore bien plus grandes, vous pouvez dire à cette montagne de se déplacer. Et ça, c'est la puissance qui nous habite encore aujourd'hui. Et la puissance qui vient de Dieu, c'est juste incroyable. Et puis, alors, on ne sait pas s'il est encore en colère de hier, mais je trouvais assez fou comme ça s'enchaînait, un acte, en fait, de nouveau, saint, et pas, il n'a pas péché, mais assez impressionnant. Après, la compassion. Matthieu 9, 35. Écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Ensuite, dans Matthieu 9, 36 à 38, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme les brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Jésus, il a toujours agi par compassion. Il a guéri des malades, il a enseigné parce qu'il avait compassion, parce qu'il avait amour, parce qu'il voulait le meilleur pour nous. Il aurait pu simplement annoncer la bonne nouvelle sans guérir, mais il a guéri parce qu'il a compassion avec les gens. Il n'a pas guéri parce qu'il faisait un show, il n'a pas guéri parce qu'il voulait montrer à tout le monde comme il est fort, il a guéri parce qu'il voulait guérir la personne qui était malade. Et pas parce qu'il y a plein de monde qui regardait. Et ça m'impressionne toujours à nouveau envers Jésus. Même des fois, il a interdit à dire ce qui s'est passé. Et puis après, ils l'ont quand même dit, mais il a dit, dis pas, garde pour toi ce qui s'est passé ici. C'est pour toi. Et cette compassion, on voit là-dedans, il avait compassion envers la foule qui était là. Il les a nourris, certains, à notre passage, il les a nourris parce qu'ils avaient faim, puis il ne voulait pas les lâcher à la maison en ayant faim, puis en étant crevés. Il les a nourris. Et cette compassion est vraiment la différence aussi par rapport à d'autres choses qui se passent aussi dans le monde où on cherche la gloire humaine, ben lui pas. Lui-même, ben, il y avait un méga réveil, il a prêché à plein de monde. Et les disciples, là, je pense qu'ils étaient en feu, ils ont dit, voilà, il y a le réveil, nous, on est les amis de Jésus. Après, Jésus s'est retiré et puis il n'a plus continué à fond là-dedans, comme peut-être les disciples voulaient. Puis après, il parlait même justement du sacrifice de son chair et puis son sang à boire. Et puis il a méga appuyé là-dessus, même en leur lisant dans Jean. Hein, c'est assez fou, ça fait presque peur. de un peu limite cannibalisme qu'on pourrait croire avec cette centaine. Il appuie là-dessus, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez pas mon sang. Moi, si j'étais des disciples, j'aurais dit, ouais, c'est bon, Jésus, calme-toi un peu. On ne veut pas les choquer, ces gens et tout. Puis là, c'est écrit que beaucoup sont partis. Que beaucoup disaient, non, mais un gars comme ça, on ne veut pas suivre. Puis après, il disait aussi, disciples, vous. Donc, il ne cherchait pas la gloire. Il n'a pas dit les paroles qui font du bien et qui sont bons. Il a dit les paroles par compassion. Il a guéri par compassion. Et la question que j'aimerais te poser aussi, c'est est-ce que tu veux être ce ouvrier de la moisson ? Jésus dit, mais priez mon Père pour qu'il envoie des ouvriers. Ça, c'est notre mission. On peut l'être. On peut aider Jésus là-dedans. On peut aider Jésus. Parce qu'on peut être ses ouvriers. Mais est-ce qu'on le veut ? Je me suis réellement posé la question, est-ce que j'ai envie d'avoir un réveil ici ? Est-ce que je suis bien dans Move, avec le local, ça joue droit avec les places qu'il y a et tout ? Est-ce que j'ai envie que dans une année, on craque de tous les côtés, puis le local est trop petit ? Est-ce que je l'ai vraiment envie ? Puis vous ? Est-ce que vous avez envie que vos collègues, que vous aimez ou pas, se convertissent ? Et puis que vous devez lui expliquer la Bible, et puis que vous devez donner des réponses ? Est-ce que vous avez envie de ça ? Tu t'en fous, hein ? Justement. Est-ce que c'est ça l'attitude ? Moi, je me suis vraiment posé la question. Et ça dépend vraiment de nous. Nous, on peut être ces ouvriers que Jésus dit. Et c'est une mission juste incroyable, parce qu'il ne nous laisse pas tout seuls, il nous donne le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un autre message. Après, il avait de la tristesse. Et puis dans cette tristesse, il y a plusieurs passages dans celui justement où il pleure. On dit que c'est le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Et c'était en fait Lazare, c'était son ami, c'était le frère de Marthe et Marie qui est décédé. Et puis il a attendu 2 jours pour qu'il décède. Puis après il a allé et puis il a rencontré les sœurs. Et ensuite il a ressuscité Lazare. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez la lire. Et là, il rencontre justement Marie dans Jean 11, 33, 36 en la voyant pleurer. Elle et les Juifs, venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Donc le corps de Lazare. « Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura, les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Jésus pleure avec nous. Jésus a des émotions. Jésus nous comprend. Et ça, c'est quelque chose que, aussi à ce temps-là, il y avait beaucoup les dieux grecs. Puis en fait, les dieux grecs, n'avait pas d'émotion. Il ne se mettait pas à notre niveau. C'était un Dieu parfait, voilà, mais il ne nous comprenait pas. Et Jésus, il était là, et puis il pleurait avec les gens. Alors c'est clair, d'autres disaient, mais il a fait plein de miracles, il n'aurait pas pu venir à moi et le guérir. Il n'aurait pas pu faire quelque chose que maintenant il doit pleurer. Mais Jésus, il pleure avec nous. Et toi, as-tu cet amour envers les autres personnes ? Pleures-tu avec les autres ? Partager la joie aussi. Est-ce que je suis vite jaloux de quelque chose que quelqu'un n'a pas ? Est-ce que je peux me réjouir avec quelqu'un ? Mais est-ce que je suis aussi là ? Est-ce que je suis cet ami aussi qui est là quand c'est dur, quand ça ne va pas ? Quand il faut pleurer ? Est-ce que nous avons cet amour ? Jésus l'avait. Et nous sommes appelés à faire la même chose. Ensuite, l'amour. Jésus était amour. Où commencer ? Ça, c'est toute la Bible, c'est tout le Nouveau Testament. Cet amour est vraiment écrit en grand. Il est amour. Et tous ses actes, ses paroles qu'il proclamaient l'amour, proclamaient la grâce, proclamaient l'amour du Père. Mais c'était comme intéressant de chercher, vu qu'on est sur la personne de Jésus, quand c'est que Jésus a dit « je t'aime » ou quand c'est que Jésus dit « je vous aime ». On le sait, hein, parce que c'est ses messages. Et puis il y a un verset, justement un peu différent, dans Marc 10, 21, c'est en fait c'est un gars qui est venu vers Jésus, puis il a dit, ouais, j'aimerais te suivre, j'ai tout fait juste d'après la loi, etc. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre ? Et en fait, dans Marc 10, 21, là, Jésus dit, l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Et le jeune, elle a fait quoi ? Il ne l'a pas suivi parce qu'il est très, très riche. Et ce verset-là ne veut pas dire que les chrétiens ne peuvent pas être riches, juste en parenthèse. Ça veut juste dire qu'à ce moment-là, les paroles de Jésus, il a mis le doigt là où ça fait un peu mal parce qu'il était très riche et son cœur est là où est ton trésor et son trésor était la richesse. Mais Jésus l'a aimé. Il aurait aussi pu dire autre chose. Il a dit ton cœur est à mauvaise place. Elle a dit il l'aimait. Il lui a dit ça. Puis après, il est parti triste, le jeune. Puis Jésus a continué son chemin avec ceux qui ont tout abandonné pour le suivre. Et moi, j'aimerais faire partie de ceux qui abandonnent tout pour le suivre. Mais est-ce que j'y arrive? Je ne sais pas. Et puis, je vous encourage à faire de même. Et le verset, bien sûr, dans Jean 15, 12 à 14, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner de votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jusqu'où sommes-nous prêts d'aller avec notre amour du prochain? Des fois, c'est dur aussi, hein, jusqu'où on doit se protéger aussi nous-mêmes. Mourir pour ses amis, est-ce que ça veut dire que ma femme, mes enfants, je mets tout en arrière parce que je dois m'investir pour mes amis? Parce que j'ai des amis qui sont dans le besoin et qui ont besoin de moi. Est-ce que j'ose dire non des fois? Non, je n'ai pas le temps, non, je ne peux pas. Non, j'ai besoin d'être à la maison pour coucher mes enfants. Ce sont des questions qui sont dures, franchement. Puis en même temps, avant nous, cet amour, déjà envers nous, envers notre famille, mais envers nos amis, d'aller jusqu'à laisser notre vie pour eux. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour ses disciples, pour ses apôtres. Il l'a fait pour sa maman, Marie. Il l'a fait pour Marthe et Marie. Il l'a fait pour tout le monde. Il l'a fait. Même pour ceux qui ne l'aiment pas. Ça fait réfléchir. Voilà, avec l'amour, j'aimerais terminer. Bien sûr, il y a d'autres émotions de Jésus, comme par exemple la peur, quand il était sur le mont des Oliviers, avec la crucifixion, il transpirait du sang et de l'eau, parce qu'il avait peur. Jésus avait aussi peur. Jésus était humain. Jésus était comme toi et moi. Et c'est pour ça qu'il nous comprend. C'est un Dieu qui est hyper accessible, qui est hyper saint, sans faute, sans péché, mais accessible et qui nous aime. J'aimerais faire une dernière parallèle par rapport aux émotions de Jésus ou bien la manière d'agir dans nos vies. C'est Marthe et Marie. C'est les deux sœurs de Lazare qu'on entend déjà dans l'histoire. En fait, Jésus allait une fois dans la maison. Je ne vais pas vous le lire pour gagner un peu de temps. Et puis là, il y avait Marthe et Marie. Puis Marthe, elle était très accueillante. Puis elle faisait tout. Hein. Elle préparait la maison, elle faisait le service et tout. Alors que Marie se mettait aux genoux de Jésus puis écoutait son témoignage. Et puis là, Jésus dit à Marthe, attends, calme-toi, pose ton balai, viens écouter, comme ta sœur. Ben là, Marthe pouvait se dire, mais bon, attends, déjà, elle ne fout rien. Et puis moi, j'accueille tout, puis tu la protèges au corps, puis tu me dis à moi de venir. Et là, je vous dis juste ça, parce qu'on voit un peu le caractère de Marthe et Marie. Je pense que Marthe était plutôt un peu à fond, hein, powerful, comme ça. Puis Marie, peut-être plutôt un peu émotionnelle. Elle venait écouter, etc. Et dans l'histoire, en fait, que j'ai lue avant, qui était dans Jean 11, versets 20 à 27, quand Lazare est mort, ben, Jésus arrive, et puis d'abord c'est Marthe qui l'accueille. Et Marthe, elle dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, donc, vous me suivez, donc où Lazare était décédé, Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Donc de nouveau, Marie restait assise, puis elle allait, tac, Jésus est là, je dois y aller. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection de dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui. « Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Jésus était assez autoritaire. Jésus était assez plutôt life coach dans ce moment-là. Elle vient, elle lui fait des reproches. Puis lui, il savait, Marthe, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être encouragée de cette manière-là. Il lui disait, « Mais sais-tu qui je suis ? Je suis la résurrection. » Avec des questions ouvertes. Marthe est très, très, tac, un peu contrée. Et ensuite, ce qui est intéressant, que ouais, ça, c'était le caractère de Jésus que Marthe avait besoin à ce moment-là. Chacun fait aussi ses deuils différemment. Elle avait, je pense, plein de questions. Puis lui, il l'a rencontré de la bonne manière. Et ensuite, dans Jean 11, 28 à 38, c'est écrit, après avoir dit cela, elle allait appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, donc elle était assise, elle pleurait, puis tout d'un coup elle part. La virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Donc je pense qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Je pense qu'elle a surtout pleuré, qu'elle était à fond dans ses émotions. Elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les Juifs, c'est le verset qu'on avait avant, venu avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus pleurait avec Marie. Avant, il avait sa sœur, il l'a rencontrée toute une autre manière. Après, c'est Marie qui vient. Et là, il s'est juste mis à son niveau, puis elle a pleuré avec elle. Le même Jésus, la même situation, mais deux personnes différentes. Et Jésus est le même pour nous. Peut-être avec un, il doit dire, vas-y, bouge-toi, mets tes chaussures de sport, avance. Et puis, pour la même situation, à quelqu'un d'autre, il dit, va chercher la couverture. Je me mets sur le canapé avec toi, parce que je t'aime et je te prends dans les bras. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ce n'est pas ça qu'on aimerait. Ce n'est pas ça qu'on aurait besoin. Ben oui. Jésus le sait et il le fait. Il agit de la manière dont on a besoin qu'il agit. J'arrive au bout et puis j'aimerais vous mettre trois challenges, trois questions pour prendre avec ou pour discuter ici. Premièrement, quelle image as-tu de Jésus ? Est-ce que tu le vois comme pompier, comme best friend, comme consolateur, comme coach ou autre chose ? Est-ce que tu le mets dans une boîte ? Puis tu le sors que là où tu as besoin, que quand la maison brûle, que quand tu dois savoir ton prochain pas. Ou bien est-ce que tu le laisses complètement agir dans ta vie? La deuxième question, quelle émotion de Jésus as-tu besoin aujourd'hui? As-tu besoin que Jésus pleure avec toi? As-tu besoin que Jésus te dise, viens avec moi, je suis ton ami, on va se promener dans la forêt à coup, on apprend à se connaître et on parle de la vie et d'autres choses. As-tu besoin que Jésus te dise clairement quoi faire? Qu'il te dise peut-être, là c'est faux, il faut tourner et aller dans l'autre direction. Qu'as-tu besoin aujourd'hui, durant la période de vie que tu es de Jésus? Ben dis-lui, parce qu'il te comprend. Il va agir de la manière dont tu as besoin. Et dont tu as besoin, ça ne veut pas dire dont tu aimerais que ça se passe. Ça c'est très important. Est-ce que tu lui fais confiance, je crois que c'est la troisième question. Enfin, la troisième, ouais. Crois-tu que Jésus t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi? Est-ce que tu acceptes si Jésus te dit « Sors le pouce de ton derrière et vas-y » Est-ce que tu acceptes si Jésus il se met à ton niveau et pleure avec toi? Ou est-ce que tu dis « Non, je n'ose pas montrer mes émotions à Jésus, il a d'autres choses à faire » Est-ce que tu acceptes que c'est ton ami? Est-ce que tu le veux comme ami? Si tu acceptes qu'il vient, tu vas marcher juste avec lui en lui parlant de tout et n'importe quoi, de quel shampoing acheter, de quoi faire, comme tu parlerais à un ami. Nous, on doit l'accepter. Lui, il est là et il attend. Puis il est proche de toi puis il dit juste, donne-moi la main, je vais avec toi. Et je te donne ce dont tu as besoin. En acceptant, ce n'est peut-être pas forcément ce dont j'ai envie. Mais tout ce qui se passe, c'est pour le meilleur pour nous. Mais ça, il faut le croire. Parce que sur le coup, c'est pas évident.